you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Pierre Faucillon, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Lucille Como, Raphaël Léris, Florent Georgesco, à notre sommaire, l'avancée de la nuit de Yakuta Alikavazovitch aux éditions de l'Olivier, des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina aux éditions Verticales et le documentaire éditeur de Paul Otchakovsky, Laurence, qui est sorti dans les salles le 29 novembre. Boris Pinault, à mes côtés, regarde déjà ce qui se passe sur Twitter pour savoir si vous avez des commentaires à faire sur notre sommaire, sur les livres et le film à notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Makala d'Emmanuel Gras, grand prix de la semaine de la critique au Festival de Cannes et qui est sorti hier dans les salles. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau roman de Yakuta Alikavazovitch, L'avancée de la nuit, aux éditions de l'Olivier, qui vient de recevoir ce livre, le prix du Zorba, qui n'est peut-être pas le prix le plus prestigieux, mais qui a le mérite de récompenser un livre qui a souvent été dans des listes d'autres prix, mais sans les remporter. Je me souviens que le premier roman de Yakuta Alikavazovitch, Corps volatile, avait lui été couronné par le prix Goncourt du premier roman, et le troisième, La blonde et le bunker, avait eu une mention spéciale du prix Veplaire. Cela faisait tout de même 5 ans qu'on attendait un nouveau livre de la romancière, qui est également traductrice. Le voici, L'avancée de la nuit. Paul se trouvait avec Sylvia quand il avait appris ce qu'il en était d'Amelia Dare. Au lit avec Sylvia qui sommeillait ou faisait mine de sommeiller et les vagues lueurs de l'extérieur, des bateaux-mouches, les habillés de lumière passaient indifféremment sur leur corps, sur les draps, au plafond. Il s'était dit qu'il pourrait se fondre dans les lieux, dans le décor et que c'était peut-être cela le bonheur ou ce qui s'en approchait le plus. Une vaste entreprise de camouflage, avait pensé Paul. Ce fut un coup de téléphone. Elle était entre la vie et la mort et l'issue, du point de vue de Paul, était certaine. Amelia Dare n'était pas du genre à échouer dans ses entreprises. Plutôt, ce suspens traduisait ou trahissait l'état de fragilité, de faiblesse dans lequel elle s'était trouvée, avait dû se trouver, non pour exécuter son geste, mais pour le rater, avec une imprécision qui ne lui ressemblait pas. Une imprécision prouvant à Paul qu'au moment où elle était passée à l'acte, elle n'était déjà plus celle qu'elle était. Elle n'était déjà plus Amelia Dare. L'autre possibilité, l'autre interprétation, l'idée qu'en elle quelque chose s'accrochait à la vie, refusait de mourir, que la vraie Amelia Dare, celle qu'il avait connue et aimée et désirée et détestée, que celle-là était engagée dans la lutte contre la mort, que celle-là était celle qui perdait tout, cela était insupportable à Paul. Il préférait se dire que depuis longtemps, celle qui allait mourir n'était plus celle qui avait vécu, qu'elle n'entretenait avec Amelia Dare, feu Amelia Dare, que ce rapport incertain qui unit la feuille à l'arbre dont elle a chu. Elle s'était enfoncée dans la folie, pensait Paul, elle qui avait été à 20 ans une splendeur, à l'esprit vif, à l'imagination ardente, le genre qui, allongé dans l'herbe, paraissait le prolongement de l'herbe, et plus encore, son expression, sa tendresse, qui, allongée dans l'herbe, paraissait l'intelligence de l'herbe, son génie. La dernière fois qu'il l'avait vue, il avait été choqué de la trouver négligée, et pire que négligée, inattentive, et pire qu'inattentive, éteinte. Bon, je pourrais continuer longtemps la lecture du début de l'avancée de la nuit, mais bon, il faudra peut-être le faire lire tout entier à la radio, les savoir. Raphaël Léris, pour commencer sur ce livre.
Pour moi, c'est un des plus beaux livres de cette rentrée. À chaque fois que j'en entends une phrase ou que j'en lis une, je la trouve renversante dans un mélange de sensualité, d'intelligence et de beauté. Quasiment à chaque phrase, vraiment, je trouve que c'est très fort et je ne reviens pas du fait que, voilà, qu'il n'ait eu que le prix Zorba. Bon, donc dans ce que vous lisez, on part donc de cette histoire d'amour, on sait qu'elle a terminé puisque Paul est avec Sylvia quand il apprend la probable mort d'Amélia Dare. Donc on sait qu'on va avoir affaire à leur histoire d'amour, et ce début peut nous laisser croire qu'on va avoir affaire à quelque chose d'un peu cliché, de même qu'on va nous présenter Amélia Dare comme une femme fatale dans ce qu'elle peut avoir de plus archétypal. Et finalement, tout le livre va déconstruire ça. Et donc va nous raconter la valse d'hésitement et d'hésitation et d'évitement entre les deux, voilà, d'évitement entre les deux. Il se court après, mais il y a un rythme incroyable, je trouve, et très hypnotique dans ce livre, dans la manière dont elle retrace cette course des amants. Donc, ils se rencontrent à 18 ans. Il est veilleur de nuit dans un hôtel où elle habite, ce qui est assez étonnant pour une jeune fille de nos jours. Ce qui donnerait presque des airs maudianesques à Olive, puisque c'est peut-être dans les années 60 que les jeunes gens pouvaient encore vivre à l'hôtel.
Bon, enfin, elle le dit, à l'époque, ouais. Ça leur paraissait inconcevable, voilà, qu'une jeune fille, qu'une étudiante vive à l'hôtel.
Mais je fais une parenthèse, c'est vrai que Modiano, dans Souvenir dormant, parle d'une jeune femme qui vit à l'hôtel et dit, on est dans les années 60, que c'était une des dernières, la fin de cette...
Eh ben non, il y avait Amélia.
Eh bien voilà, Modiano ne savait pas encore.
Voilà, donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils vont à la fac ensemble, enfin lui y va, il est issu d'un milieu très modeste et il a l'ambition de réussir, donc il va vraiment à la fac, tandis qu'Amélia, qui est une rentière héritière, va quand ça l'intéresse, voilà, et on va suivre leur trajectoire en parallèle, leur amour, leur désamour, enfin non, en fait, pas leur désamour, plutôt, plutôt une espèce de champ magnétique qui se détraque, je pense, et la fuite d'Amélia devant cette histoire d'amour. C'est un livre, donc, c'est à la fois une très belle histoire d'amour et c'est aussi un livre très politique qui nous raconte, donc, l'avancée de la nuit, c'est la nuit des amants, mais c'est aussi la nuit du monde dans lequel nous vivons. C'est un livre très sombre qui nous parle de surveillance, qui nous parle aussi de la guerre en Bosnie. C'est un passage pas très long dans le roman, mais qui est important. Alors, probablement dans la biographie de Yakuta Kavazovic, mais aussi dans ce que ça nous raconte de la guerre du siècle et du monde dans lequel vivent ces jeunes gens, de ce que nous raconte Yakuta Kavazovic aussi sur ce monde dangereux. Elle écrit à un moment donné, moi je trouve ça extrêmement frappant, l'amour pour nos enfants et la façon dont un monde indéfendable paraît défendable et pour finir défendu. Et c'est aussi ça que raconte très très longuement, magnifiquement, ce livre qui nous raconte la surveillance permanente et qui fait de l'anticipation, puisqu'on a on est un petit peu dans quelques années, puisqu'on finira, ils finiront à 50 ans avec Louise, la fille qu'on
finira. Ah, pop. Non, il y a, parce que c'est aussi une auteure de polar, Yakuta Kavazovic. Vous parlez de femme fatale, c'est une figure qui traverse pas mal de ses romans, et elle a le sens aussi du récit, le sens des situations qui évoluent, donc on va pas trop en dire, pardon, je vous ai arrêté.
Très bien, non mais vous avez raison.
Ne gâchons pas le plaisir à venir des lectrices et lecteurs qui découvriront ce livre. Et je reviendrai vers vous, Raphaël, mais je vais écouter d'abord Lucille Gomeau parler de ce livre.
Moi, j'ai eu un rapport très changeant au fil de la lecture parce que je n'aime pas trop le début, d'ailleurs, ce que vous avez lu, Arnaud Laporte. Et justement, cette histoire d'amour, je l'apprécie pas particulièrement. Elle me laisse assez en dehors. Contrairement à vous, Raphaël, je la trouve pas particulièrement sensuelle. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chair entre ces deux personnages-là. Et ce personnage d'Amélia Dare m'intéresse quand elle est un creux et qu'elle est cette espèce de trou autour duquel tourne l'action. Mais en revanche, comme personnage, personnage et comme personnage aimé et aimant, elle m'intéresse assez peu. Ce qui fait que il y a toute une partie du livre qui me laisse un peu en dehors. Et je trouve que ça imprime, l'histoire d'amour imprime à l'écriture quelque chose de très romantique, de très classique en ça, avec des grands sentiments. Il y a une exacerbation des sentiments en permanence quand il s'agit surtout de Paul et d'Amélia, que je trouve parfois exagéré et surtout qui imprime au style quelque chose d'un peu grandiloquent, de très précieux. Vous avez lu le texte, il y a des phrases très très longues, surtout au début du livre, après encore une fois ça change un petit peu. Des phrases très longues, une manière de toujours ne pas y toucher, beaucoup de « ou ». Je voulais citer, j'avais une citation là-dessus parce que c'est assez frappant, ça revient en permanence, c'est presque du tic. Par exemple, « tout cela était bien compréhensible et reposait sur une erreur ou plutôt qu'une erreur, un contresens », ce type de formule-là revient vraiment très régulièrement et moi je trouve plombe un peu le récit. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'enquête, donc non pas la nuit des amants, mais la nuit, dans ce cas-là, un peu théorique aussi, parce que c'est abordé dans le roman, m'intéresse beaucoup. Et s'incarne dans la manière dont elle décrit les lieux. Moi, ça, tous ces passages-là de description des lieux m'a vraiment passionnée. C'est très cinématographique. Il y a des lieux qui ressemblent à des lieux de romans noirs, enfin de films noirs même. Elle parle de films d'horreur à plusieurs reprises. Et il y a des passages qui sont de cet acabit-là, avec des réels effets de suspense et de peur. Par exemple, quand Paul va la chercher une des dernières fois, justement, à l'hôtel, qu'il ouvre la porte, c'est très bien décrit la manière dont l'hôtel est vide à ce moment-là, parce qu'il est vide de sa présence à elle. Et il y a un passage, je trouve, qui résume et qui, à mon avis, le plus beau passage du livre et qui je crois est à peu près en son centre d'ailleurs, qui est la description de l'hôtel Élise, puisque donc Amélia est héritière d'une chaîne d'hôtels, les hôtels Élise qui sont partout dans le monde et qui existent depuis son enfance jusqu'à la fin du roman, et sa mère qui est aussi une personnalité très mystérieuse comme elle, puisque c'est à peu près le même personnage, un jour l'emmène enfant dans un hôtel en vacances, donc on imagine en ex-Yougoslavie, et l'hôtel est absolument vide, elle est seule avec sa mère dans cet hôtel, et là la description de l'hôtel, de la piscine vide, des couloirs vides, de la seule chambre qu'ils occupent dans l'hôtel est vraiment splendide. Enfin, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi dans le roman, qui en dehors de ça, parfois me laisse un peu de côté, ou du moins m'ennuie un peu, et je vois beaucoup la manière dont ça s'écrit, je trouve le style.
Florent Georgesco sur l'avancée de la nuit.
Je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Donc c'est bien. Je trouve quand même qu'on ne peut, dans tous les cas, on peut rester parfois un peu à l'extérieur de ce livre, ça a été souvent mon cas, mais enfin, ce qu'on a entendu dans le début que vous avez lu, il y a quand même une richesse stylistique, un sens de l'image, une rapidité parfois de l'image, alors même que le rythme est plutôt, surtout en effet dans ce début, un rythme ample et relativement lent. Malgré tout, il y a intellectuellement comme ça des jaillissements, une richesse d'image et de concept presque, de manière de penser, de retourner par la pensée la phrase par moment. Il y a donc on est devant quelqu'un qui a absolument tous les talents. Je ne suis pas sûr, en revanche, qu'ils soient en permanence utilisés au maximum de leur capacité et de leur intensité, surtout. Il y a comme une... Oui, j'ai aussi eu ce sentiment un peu d'extériorité. On a un peu parfois l'impression qu'on est derrière une vitrine. Et que ce qu'on voit dans la vitrine, c'est quelque chose de merveilleux. Mais on est quand même derrière la vitrine. Et elle a, par exemple... Lucille parlait des lieux, et je suis tout à fait d'accord sur ces pages-là. Elle a le sens parfois elle a un sens en fait évident, très grand de l'image concrète, de la vision soudaine, qui est peut-être assez trop peu exploitée pour moi dans ce livre. Je pense à une scène où il la retrouve à l'hôtel. Il frappe à sa porte et voilà, juste ce bout de phrase. Et Amélia Dare avait fini par ouvrir, un peu essoufflée, mais le regard calme. Quoique ses lèvres, c'était dit Paul, avaient l'air récemment mordues et mordues par autrui. Ce genre d'image est magnifique, par exemple. Et là, il y a un vrai écrivain. Et là, la toute fin de ce court passage. Amélia avait répondu, parce qu'il est à ce moment-là, ils ne sont pas amants, il est juste veilleur de nuit, elle est juste cliente de cet hôtel. Elle avait répondu, merci monsieur, tout va bien, ses yeux ne riaient pas, il avait essayé de voir derrière elle, dans la chambre, un lit défait, un abat-jour légèrement incliné, rien. là, il y a tout à coup une électricité, une force de présence des scènes des personnages extrêmement grande. Et ça parcourt évidemment tout le livre, et elle a les moyens évidents de donner existence à toute cette vie-là. Et ça existe, je dirais, par éclat. Et ces éclats sont très beaux, donc on s'accroche. Mais moi, je m'accroche un peu pour attendre le retour de cela. Mmh. Et parce qu'il y a un autre aspect plus... Il y a comme un choix du vaporeux, parfois. Mmh. Encore une fois, ce sont des choix. C'est merveilleux, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains qui font que ce qu'ils peuvent. c'est merveilleux un écrivain qui se plante, parce qu'il en a les moyens, au moins. Mais je trouve que par moment, elle se plante. Par moment, enfin, il y a comme une option, un choix parfois trop fréquent de la recherche d'un état existentiel et mental d'ordre quasi poétique et en fait un peu nébuleux. Peut-on être contaminé par une histoire, se demanda Paul plus tard, par des mots. Existe-t-il des récits qui tuent? Ben oui et non. et ce genre de questions un peu trop sans objet, sans corps, dilue quelque chose qui sait faire résister les corps de manière beaucoup plus forte.
Alors, avant de redonner la parole, moi je suis d'accord avec tout le monde.
Ah bah, comme encore vous. Plus d'accord avec tout le monde.
Ouais,
que
parce
moi.
Que vous avez parlé, donc
c'est encore
mieux.
C'est la synthèse de la synthèse.
Arnaud. Alors, oui, enfin. un commentaire sur Twitter, Boris Pinot.
Oui, Christophe Blanc écrit sur un livre, un imaginaire et une écriture magnifique et inclassable, avec beaucoup d'effets de surprise. Il espère simplement que l'intrigue ne sera pas trop déflorée ce soir. Mais jusque-là, on s'en sort. Plutôt bien.
Vous voyez, Raphaël, hein, beaucoup d'effets de surprise, précise-t-il.
Nous sommes sous surveillance, Blanc. Comme dit.
Non, mais c'est vrai que je rejoins Florent Georgesco sur cette vitrine, parfois. Mm. C'est vrai que, mais bon, alors moi j'aime aussi admirer simplement une langue, même si je ne suis pas pleinement dans le récit. Donc ça ne me gêne pas tant que ça, mais j'entends absolument ce que dit Florent. Est-ce que vous le partagez par moment, Raphaël Léris, ou l'adhésion est totale?
Non, je le partage par moment, mais quand Florent parle de vitrine, moi je rétorquerais que la fenêtre a une telle place dans l'économie poétique du livre et dans l'intrigue que nous ne divulgâcherons pas, que c'est voulu. Alors, vous pouvez trouver
le choix.
C'est bien plante, ce que je disais, mais pour moi c'est très cohérent avec ce texte et avec le fait qu'elle ne se... Moi j'aime assez la distance que ça instaure. Que ça nous permet d'avoir accès à cette histoire d'amour, mais pas de pas non plus se vautrer dedans. Mmh. Voilà, ouais. Donc moi, de ce point de vue-là, cette histoire de vitrine ne me dérange pas.
Il y a d'autres choix possibles. Entre se vautrer et regarder entre Alexandre Jardin et Proust, il y a d'autres choix possibles.
Ah ouais.
Et par ailleurs, sur la question de ce que vous citiez sur Paul et ses interrogations sur les récits, etc., elle précise très tôt que Paul, contrairement à Amélia, n'avait pas la culture de la fiction. Et c'est aussi ça qu'il va acquérir à son contact, au contact de cette métastase de clichés qu'est Amélia quand il en entend parler pour la première fois à la fac. Et donc, pour moi... C'est très cohérent, en fait, qu'elle l'amène à se poser des questions d'étudiant on ne dit plus Doug, excusez la vieille personne que je suis, on dit en Master 2.
Ouais.
Non, Master 1,
je ne sais plus, non, licence, je ne sais plus.
LMD,
c'est non c'est licence, bah, Doug, c'est
voilà.
Deux ans. Donc
c'est ça. C'est voilà.
Mais oui, nous en avons fait, connu
mais,
Doug.
Mais c'est vrai que tout, oui.
Vous rendez compte.
Tout est dit dans les toutes premières pages, dans les trois premières pages, puisque une phrase, celle qu'on aime, elle était de ces gens qui détruisent tout et appellent ça de l'art.
Très bien.
Tout est dit. Et est-ce que pour ce que vous venez de dire à l'instant, Raphaël, tout le monde pensait, d'Amélia, tout le monde pensait qu'elle aurait dû être écrivain, tout le monde sauf elle. L'écrivain, c'était sa mère. Et le fait que sa mère soit morte depuis longtemps ne changeait rien à l'affaire. L'écrivain, c'était sa mère. Elle, Amélia Dare, était un personnage, et d'après ce qu'on en voyait, déterminée à le rester. Et si elle en était l'auteur, ou si ce personnage était l'œuvre de quelqu'un d'autre, voilà qu'il n'était pas sûr, et demeurait à décider. Ça fait un ou de plus, Lucille Gaumont.
Mais en fait, il est symptomatique ce ou, parce que moi je vois vraiment, par rapport à ce que disait Florent, il y a une sorte de profondeur dans le récit, on l'atteint parfois, notamment via ce réseau autour de la nuit, de la ville la nuit. Il y a des échos entre l'utilisation du GPS, des effets de réel, puisqu'il y a des références à Ziad Ebouna, à Clichy-sous-Bois en 2005. Il y a plein de petits effets de réel, donc on sent qu'il y a un réseau qui se tisse en dessous de l'histoire d'amour et qui est presque d'ordre politique. Enfin, on imagine qu'il y a un discours, sauf qu'on y a très peu accès et on peut du coup la soupçonner de facilité. C'est-à-dire que à force d'être évanescent, bah oui, on dit pas grand-chose. Alors c'est bien gentil parfois de nous suggérer des choses de ce point de vue-là, et mais on en manque presque. Quoi.
Bon, ça fait presque une transition à Carnot Bertina, mais un dernier mot très léger de Florent Jean-Lescot.
Je détourne les transitions. Une des choses qui m'éloigne un peu, c'est la question du temps, en fait. Au-delà de ce que je disais sur ce qui, moi, me paraissait parfois un peu gâché, il y a des décennies qui passent dans ce livre et je trouve qu'il n'y a pas un sentiment très puissant, très concret du passage du temps, justement. Elle excelle dans le ton flaubertien au sens de la fin de l'éducation sentimentale. Il voyagea. Il fut malheureux, il fit ce qu'on fait, ce que l'on dit faire dans ces cas-là, il le fit, puis il dit l'avoir fait. Ces passages-là, ces accélérations sont très belles, cette fluidité du temps, mais justement, là, pour le coup, en effet, il y a peut-être une sorte de facilité. Une facilité, encore une fois, dans quelque chose de très beau, mais une facilité qui ne lui permet pas de lutter avec le temps, d'en faire quelque chose de plus intense, encore une fois. Elle est très bien pour laisser filer le temps comme ça, et ça peut faire de très beaux effets. Il faudrait peut-être parfois réfléchir à ces modulations, mais on essaie de me faire taire.
Parce que pour laisser filer le temps, vous êtes un champion, Florent.
Mais oui, c'est ma spécialité.
Et vous me direz après, on n'a pas eu le temps de parler des autres. Bon.
Nous verrons. Non, rien.
Ah, ça promet. L'avancée de la nuit de Yakuta Nikavazovic est paru aux éditions de L'Olivier. À suivre dans la dispute, Arnaud Bertina et Paul Otchakowski-Laurence.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
La suite de cette émission, en effet, consacrée le jeudi soir à la littérature avec Des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina, publié chez Vertical, qui nous entraîne dans un abattoir de volailles bretons, où un secrétaire d'État d'un gouvernement de gauche, donc une fiction, a tenu à venir annoncer lui-même la fermeture de l'usine, parce qu'il a envie de proposer un plan de reconversion, mais mal lui en a pris, puisqu'il se retrouve séquestré, l'usine occupée, le tout sous le regard inquiet des CRS et le regard aussi assez désapprobateur des médias. Entendu chanter Nelly Young, ce sont seulement les châteaux qui brûlent. L'insurrection qui vient, ça aurait pu faire un titre aussi à ce livre, mais il emprunte donc le sien à cette chanson de Nelly Young que nous entendons encore quelques bribes, avant que Lucille Como ne prenne la parole.
Oui, alors c'est un roman qui est plus que musical, puisque par sa forme il est polyphonique, ça on peut le dire. Il emprunte son titre à cette chanson. Il est beaucoup question aussi de musique à l'intérieur du roman, puisqu'il y a des personnages passionnés de musique et notamment de free jazz. Donc roman polyphonique avec des personnages récurrents, notamment Pascal Monville, donc ce fameux secrétaire d'État, Célina Berkane qui est sa conseillère et qui, elle, n'est pas séquestrée mais qui tourne un peu autour pour essayer de voir ce qu'elle peut faire. Et puis il y a tous les salariés qui sont syndiqués ou non mais qui se retrouvent à l'intérieur de l'usine et qui cherchent des solutions. Et l'action se passe en quelques jours, hein. Là pour le coup tout est très tendu, depuis l'enlèvement en gros jusqu'à l'issue il y a 5 ou 6 jours je crois, avec le quotidien, des AG quotidiennes, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on va faire. Et de fait, l'action en fait est assez peu importante, on comprend vite. C'est un roman qui ne s'achemine pas vers quelque chose de direct, ça tourne vraiment autour de solutions possibles. Et ça, c'est vraiment servi par la polyphonie. Alors, moi, j'aime assez ce livre. Je l'ai beaucoup aimé au départ. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été très prise par les premières lignes. Il y a une virtuosité de l'écriture qui est quand même très impressionnante. C'est une sorte de tourbillon. Mais comme tous les tourbillons, ça lasse. Alors, du coup, la longueur, notamment du roman, peut-être pèse un peu. C'est un très, très long tourbillon, disons. Et cette polyphonie finit par desservir le livre dans la mesure où les personnages deviennent de plus en plus indistincts. Ça, je ne sais pas si ça vous a fait ça à vous, mais le style de Bertina, je pense, sa personnalité noie totalement les différences de prise de parole qu'il peut y avoir, ce qui du coup politiquement pose un peu des questions, puisque quand le secrétaire d'État se met à parler exactement de la même manière que l'ouvrière, bon, ça devient presque un petit peu gênant de ce point de vue-là. Et donc finalement, on ne sait plus exactement ce que l'auteur veut dire sur ce qu'il est en train d'écrire, qui a quand même un ancrage dans le réel très précis, puisqu'il est question du fameux arrachage de chemise du patron d'Air France. Évidemment, il y a des références extrêmement directes à François Hollande, à son discours sur la finance en 2012. Même des références qui ne sont pas des références, parce que je pense que Arnaud Bertina avait écrit avant, mais à la fameuse phrase de Macron sur... qu'est-ce que vous faites au lieu de foutre le bordel, vous feriez mieux d'aller chercher du boulot ailleurs, en gros. Donc ça résonne de manière évidente, et en même temps, on se perd un peu. Il a un sens de l'image que moi, je trouve vraiment très, très, enfin, très instinctif. Il y a des images magnifiques tout au long. Ça va de l'analogie générale avec le jazz à des petits mots par-ci par-là qui sont vraiment beaux. Je vais juste lire une phrase, par exemple, pour donner un peu une idée du style. Quand on a ouvert au préfet à 6h du matin, c'est toute la fraîcheur de l'aube qui est entrée dans l'abattoir. Ça m'a fait une minuscule soûlerie instantanée, le matin qui s'engouffrait comme ça. Pour moi, ça représente assez bien cette écriture qui est très empathique, très drôle, mais qui finit par noyer un peu le poisson.
Le poussin.
Noyons le poussin. Bon, c'était pas le PDG d'Air France, hein, il aurait pas été dans pareil galère,
non,
mais un cadre.
Le directeur de la communication.
Ça aurait été beau.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà
ça aurait
bien,
été beau. Attention à ce que vous dites. Oui. Hein.
Mais je suis dans le livre.
Bon, les services juridiques de Radio France sont déjà sur l'affaire. Florent Georgesco sur Des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina.
Alors, j'ai un rapport un peu particulier à ce livre parce que curieusement, je connais l'abattoir dont il parle. Car il s'inspire d'un abattoir réel. Nous sommes à Châteaulin.
Vous avez des parts dans l'abattoir ou pas? C'est ça qui nous intéresse.
Non.
Bon, voilà. Ça va alors.
Au contraire, si je puis dire. ça concerne ma vie antérieure. Quand j'étais éditeur, nous avions édité dans la maison dont je m'occupais un livre d'une journaliste qui avait fait une immersion dans cet abattoir-là. Donc au milieu des ouvriers en question. Donc qui est l'abattoir Doux. À Châteaulin, ça ne peut être que lui, puisqu'il y a un abattoir à Châteaulin où, en effet, comme il est dit dans le livre, on vend des poulets dans les pays arabes, en l'occurrence en Arabie Saoudite. Donc voilà, tout est réel au départ. Et je connais ce réel, c'est curieux. C'est d'autant plus curieux que le réel est la question de Bertina.
Ouais.
Donc je ne veux pas être de mauvaise foi, enfin, il se trouve que c'est le hasard qui me permet de connaître un peu mieux cette réalité. Mais justement, et ça rejoint ce que disait Lucille sur les voix, j'ai le sentiment qu'il a voulu fabriquer un dispositif pour prendre en compte le réel social, C'est extrêmement louable, si je puis dire. C'est une très belle entreprise de sa part qu'il essaie de mener depuis quelques livres, d'ailleurs, de manière très rigoureuse, très très approfondie. Mais peut-être un peu trop. Peut-être que le dispositif, au fond théorique du livre, a écrasé ce réel. Et je peux vous dire que quand on consacre 200 pages à raconter comment ces gens vivent et parlent, ces gens-là, je veux dire pas ces gens en général, les ouvriers de cet abattoir-là qui s'occupent de ces poulets-là, les paroles sont plus colorées, plus distinctes. Elles se distinguent les unes des autres beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de vie et de vitalité dans ces paroles-là que dans ces dialogues, ces voix intérieures qui sont en effet toutes un peu unifiées et toute assujettie à un débat théorique. Et il essaie, pour moi, de constituer une sorte de manière de penser, de repenser la politique à partir de situations concrètes, mais sa finalité, c'est quand même de penser à la politique au lieu de nous plonger dans cette réalité concrète. Et je ne sais pas, peut-être que quand on s'occupe de y compris pour écrire un roman de réalité sociale, le terrain est une bonne chose. Aller voir ce qui se passe pour raconter ce qui se passe est peut-être une bonne chose. Il y a là quelque chose qui finit par s'éloigner toujours plus de la réalité parce que il a besoin de démontrer quelque chose. Et on finit par s'approcher assez dangereusement du roman à thèse, du bon vieux gros roman à thèse qui déploie ses concepts au lieu de déployer son réel.
Alors c'est curieux parce que moi j'ai pas eu le temps de lire, j'ai parcouru des châteaux qui brûlent, mais par contre j'ai lu des entretiens du coup avec Arnaud Bertinat qui sont parés dans la presse, et lui il dit qu'il a notamment été voir les gens de Fralib à Gémenos assez longuement, et que son projet c'est effectivement que ces voix soient toutes différentes et soient des voix d'intelligence différentes. Alors est-ce que vous partagez ce constat quand même un peu d'échec, Raphaël Leiris?
Alors, je ne parlerai pas forcément d'échec, puisque c'est quand même un roman qui existe.
Non, l'échec sur la différenciation de ses voix et de leurs intelligences, au sens le plus noble.
Je partage ce constat. Pour moi, le livre, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est la prolongation de Nuit debout par d'autres moyens, en l'occurrence romanesque. C'est la volonté, c'est cette manière de faire alterner la parole, de croire en une intelligence, enfin de vous. Oui, c'est très démonstratif la manière de dire « je crois en une intelligence collective, on trouvera des solutions par cette circulation de la parole bon, », alors qui aboutit à un échec, hein, comme Nuit debout. D'ailleurs, il remercie à la fin ceux du 32 mars. Il a été très partie prenante du mouvement. Donc, je trouve que c'est sa force parce que ça lui donne un dispositif qui est très convaincant au début, et comme si je trouve que ça patine et qu'il y a des effets de rythme qui sont un peu manqués. C'est-à-dire que le temps s'étire et ça pourrait être très juste, puisqu'on est dans un endroit fermé pendant une semaine, qu'il y a des moments de peur, les débats c'est chiant, c'est long, tout ça est très, très normal, mais que ça ne me semble pas systématiquement maîtrisé. Donc c'est à la fois sa force parce que ça lui donne un dispositif qui fonctionne et en même temps parce que ça lui marque ses limites. Voilà, il me semble, de ce point de vue-là, voilà, cette volonté de prolonger la Nuit debout dans un roman.
Lucile Comeau ?
Sur le bon gros roman théorique, je suis quand même pas sûre qu'on soit totalement là-dedans. Il y a une manière de s'échapper parfois justement de la théorie et aussi de ses propres carcans qui est quand même qui est quand même manifeste. Je pense par exemple à certains thèmes, à certains fils qui font un peu des fils rouges à l'intérieur de cette espèce de spirale, et notamment le motif de Don Quichotte, puisque à un moment donné, le secrétaire d'État demande à sa conseillère d'aller chercher Don Quichotte et de chercher des choses sur Don Quichotte. Donc au début, elle comprend pas bien pourquoi elle doit faire ça. Et puis elle se met à chercher à la fois, à lire Don Quichotte et surtout à aller chercher des adaptations cinématographiques de Don Quichotte. Et bon, évidemment, c'est une manière encore de faire du dispositif, d'appeler cette analogie-là et d'appeler ce que c'est que la quête de Don Quichotte, les errances, les moulins, les géants. N'empêche que ça fait une sorte d'appel d'air, et moi je trouve que ça sort un peu du côté Nuit debout et du côté très cadré et théorique du roman. De la même manière, encore une fois, il faut aller à l'intérieur des pages et pas regarder uniquement la forme, mais il y a des passages qui sont très très beaux. Je pense à une digression, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Il y a un des personnages qui n'apparaît qu'à une occasion, qui s'appelle Pimpon, de manière très étonnante, et qui se met à raconter en pleine assemblée générale l'histoire de sa grand-mère dans les années 50, internée dans un asile totalement novateur, où un jeune médecin fait des merveilles et il doit fermer son asile. Du coup, il prend tous ses malades avec lui et il sauve avec ses malades. C'est une histoire, pour le coup, on la raccroche à rien du reste, on s'en fout un peu de se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire, sur Nuit debout potentiellement, etc. Du coup, c'est intéressant en soi, et c'est quand même des pages qui sont des très très belles pages. Rien que pour ça vaut le coup, je trouve, de s'intéresser à ce livre.
Florent Georgescu.
Oui, je suis d'accord. Je suis le travail d'Arnaud Bertinat avec beaucoup d'intérêt depuis ses premiers romans, que je préférais peut-être d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a un immense talent, et on retrouve ça très souvent là-dedans. Mais lui aussi, il veut faire quelque chose qui, à mon avis, écrase un peu ce qu'il fait. Je ne dis absolument pas que ce n'est qu'en permanence un gros roman théorique, mais il a plein d'échappées. Je suis pas sûr que Don Quichotte soit l'échappée la plus convaincante, parce que on sent un peu là aussi la volonté d'ouvrir sur un autre thème. Enfin bon, de ne pas être, comme vous le disiez, que dans Nuit debout. Mais le problème, c'est que il y a vraiment une perversion du système théorique dans le livre. Il commence avec un élan très puissant et souvent littérairement convaincant. Il commence par cet amour du réel, cette volonté d'aller chercher la réalité là où elle est. Mais à force de débattre, à force peut-être de d'entrer dans le même échec que Nuit debout, c'est-à-dire de se perdre dans des palabres infinies, il fait tout pour rater ce réel. Il fait tout pour que, en fait, il essaie de faire une dialectique. Il y a ce ministre, il y a ses ouvriers, et au fond, le ministre n'est pas caricatural, personne n'est caricatural là-dedans, c'est très bien. Sauf que la situation qu'il décrive est beaucoup plus riche que cette dialectique-là. C'est-à-dire, il feint même de créer une sorte d'ouverture. Il essaie de montrer qu'il prend en compte toutes les possibilités de la situation qu'il décrit, mais cela aussi est fin. Et c'est-à-dire qu'il tombe sur le problème du roman politique qui est un gros problème, qui est, puisqu'on est dans la fiction, on peut définir le point de départ tout seul. Et donc on le résout. Quand vous donnez le point de départ, quand vous dites « voici la règle du jeu », ben vous gagnez à la fin. Et il y a un peu de ça, et donc un peu de fermeture idéologique, parce qu'il a établi un dispositif qui lui permet d'arriver aux conclusions qu'il voulait dès le départ. Et ça, c'est bien pour une dissertation, c'est moins bien pour un roman.
Raphaël Léré, sur ce point, ou un autre pour...
Moi, je voudrais quand même souligner une force du roman qui est dans... En dépit de ce côté théorique et démonstratif qui peut irriter, écraser un peu, il y a une volonté de montrer la vie, enfin de chercher la vie et de montrer ces gens qui ne veulent pas mourir et qui le disent, je ne veux pas mourir avant ma mort, et de laisser entendre ça, que je trouve assez belle et assez réussie. Il y a des passages à plusieurs reprises où le flux de conscience des locuteurs est inscrit de manière lisible dans le texte. Et ça, je trouve que c'est assez beau de dire de quoi nous sommes tous traversés, y compris au moment où on est en train de se battre pour sa survie économique, y compris quand on est en train de se disputer de manière très violente, et on est traversé par ses histoires d'amour, ses rapports avec ses parents. Voilà, ça je trouve que c'est une des réussites du livre.
Bien, on s'arrête là pour « Des châteaux qui brûlent », livre d'Arnaud Bertina, publié aux éditions Verticales.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littérature ce soir, c'est un film, un documentaire signé Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est un documentaire qui a pour titre Éditeur. Après un premier film en 2009 qui était intitulé Sablé sur Sarthe, Sarthe, qui revenait sur son enfance et adolescence dans cette ville. Cette fois, c'est Éditeur, où Paul Tchaïkovski-Laurence s'interroge sur son métier, sur les raisons qui l'ont poussé à l'exercer.
Des centaines de manuscrits chaque mois, des milliers chaque année, des paroles, des voix, des histoires, des secrets, des mensonges.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec l'éditeur.
Éditeur, je le suis depuis 33 ans, sous mon nom, enfin sous mes initiales, ce qui revient tout même. Ce n'est pas seulement l'itinéraire d'un jeune homme pressé qui voulait faire carrière dans l'édition, c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui, lisant des manuscrits, éditant des livres, trouve peu à peu ses mots à lui à travers ceux des autres, grâce auxquels il peut vivre.
Les événements ne sont que le point de départ d'une vie nouvelle qui se construit à chaque page.
Vous avez été la personne qui m'a nommé, élu, écrivain.
J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce manuscrit que j'en ai chié à l'écrire.
Qu'est-ce que c'est un éditeur? Pourquoi cette activité économiquement aberrante? Pour le pouvoir que cela me donne sur les autres, sur ceux que je n'ai pas su être? Pour attacher mon nom à plus grand que moi? J'ai entendu une musique. Elle est là depuis toujours et ailleurs. Toujours est la même et changeante.
Voilà pour la bande-annonce d'Éditeur, le film de Paul Tchaïkovski-Laurence qui est sorti dans les salles mercredi de la semaine passée. Alors, Florent Georgesco, éditeur, vous le fûtes ?
Je le
Vous fume. Le serez, peut-être.
Ouf.
Allez savoir.
Au conditionnel, vous voulez dire. Mais, je connais assez ce métier pour m'intéresser à ce film, si c'est ce que vous voulez dire. Oui. Et c'est-à-dire que c'est au fond. Ce métier d'éditeur est très mystérieux pour beaucoup de gens, très inconnu en réalité. Quand on se rend compte de ce que les gens imaginent sur ce que les éditeurs font concrètement dans leur vie, on est très surpris, si soi-même on connaît cette chose. Donc c'est une chose merveilleuse qu'un grand éditeur comme Paul prennent la parole pour raconter, pour parler intimement de ce métier. Comment dire, je ne suis pas critique de cinéma, j'ai cette chance, on ne peut pas tout faire. Peu importe, peu importe au fond la forme de ce film. Il y a, quels que soient les moyens qu'il utilise, les moyens cinématographiques qu'il utilise, il y a dans tout le film une sorte de rectitude dans la manière d'essayer de dire les choses, une sorte d'approfondissement, un sens de l'intimité, encore une fois, de ce métier, de son rapport à ce métier, qui m'ont beaucoup touché dans le film. Et là, sa voix, sa présence, quand il apparaît un peu, sont des choses qui, moi, ne peuvent pas me laisser totalement indifférent, parce qu'il y a quand même un homme qui, comme il peut, en tant que cinéaste, s'expose très crûment, mine de rien. Il y a un beau courage là-dedans, une belle dignité, en quelque sorte. Après, au fond, ce que je vous raconte, c'est mes sentiments au fur et à mesure du film. Ouais. C'est-à-dire que je commence en me disant, tiens, au cinéma, en général, un éditeur, c'est un mec dans un grand bureau qui regarde un manuscrit, qui dit ça oui, et qui regarde un autre, qui dit ça non. Et puis après, il va, dans un cocktail merveilleux, s'amuser avec des gens brillants. C'est pas tout à fait ça, le métier d'éditeur. Donc, ce film l'homme qui connaît le mieux sans doute ce métier aujourd'hui en parle, je pouvais avoir une attente de découverte, d'entrée dans le concret du métier. Ce n'est pas tellement ça qui se passe dans le film, mais j'ai été assez pris quand même par l'autre chose qui se passe, et qui est un certain rapport d'un homme avec lui-même, avec sa vie, avec son passé. Quelque chose, évidemment, on ne peut pas ne pas se le dire, de testamentaire, en tout cas d'une sorte de rêve sur le testament possible, qui sont assez forts. Voilà, c'est autre chose, mais c'est fort.
Raphaël Léris sur Éditeur.
Alors, je ne suis pas non plus critique de cinéma, puisque c'est la soirée.
Méfiez-vous,
des aveux.
Méfiez-vous, ça pourrait venir.
Ça serait vraiment
vous
très
me décevez
étonnant.
Beaucoup, Raphaël.
Mais ce film, voilà. c'est un film, c'est comme ça qu'on appelle ça, me touche beaucoup par son propos et aussi par sa tentative formelle, même si j'imagine qu'on peut y trouver des fragilités, être exaspéré par l'apparition d'une petite poupée qui était donc dans le premier film, qui le représente, qui a été fabriqué par Gisèle Vienne. Et moi, je trouve que cette addition de tentatives esthétiques, puisque c'est très, très dépareillé, on n'est ni tout à fait dans le documentaire, ni tout à fait dans la fiction. Il y a des passages un peu burlesques qui racontent ses confrontations avec son banquier et ses confrontations avec la justice. En tout cas, une, celle à l'occasion du livre de Mathieu Lindon, Le procès de Jean-Marie Le Pen. Donc, ces scènes-là qui départent complètement avec le reste du film. Je trouve que ça forme un ensemble qui est intéressant, vraiment très intéressant, qui raconte aussi, je pense, le fait que c'est un homme qui a des goûts très sûrs et une oreille, enfin qui a des goûts très profondément marqués qui font son catalogue, mais des goûts qui sont très larges, et y compris dans sa manière d'appréhender, de vouloir un film en collage. Voilà, avec cette voix off, ces deux acteurs qui disent des lettres qui sont à la fois des lettres d'auteurs qui accompagnent leurs manuscrits et des lettres de refus, telles qu'a pu les écrire Paulo Tchaïkovski-Laurence. Donc moi, je trouve que ensemble, la forme et le fond fouillent scrupuleusement ce métier et les raisons, y compris les plus troubles, pour lesquelles on peut l'exercer.
Lucille Comeau.
Alors là, oui, en termes de dispositifs, pour le coup, il y a vraiment des gros dispositifs.
Il y a du gros dispositif,
puisqu'il y a donc la partie pour décrire un peu le film, parce que c'est pas évident d'imaginer, j'imagine, quand on ne l'a pas vu. Il y a donc des comédiens qui circulent et dont l'une représente un auteur et l'autre un éditeur. Il y a des scènes de genre qui sont filmées en noir et blanc, version film muet, donc dans lequel jouent les auteurs POL, donc notamment Olivier Cadio, qui a le rôle principal à chaque fois.
Oui, il est fait pour le cinéma muet.
Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Et puis, il y a des scènes qui mettent en effet en scène cette grande poupée, en fait, marionnette de Gisèle Vienne, qui représente POL. En fait, moi, je trouve que dans le côté même raté, parce que vraiment, je trouve que formellement, c'est raté, et presque même à la limite du ridicule, parfois, du film, il y a quelque chose d'attachant. Et là, je rejoins ce que vous disiez. Il y a quelque chose d'une nostalgie, parce que ça ne marche pas, en fait, formellement, je trouve le film. Alors, en revanche, je ne sais pas ce que vous avez vu du métier d'éditeur, parce que moi, qui ne connais rien à ce métier d'éditeur, qui pour le coup ne suis pas du tout critique d'édition, vraiment, je ne sais pas plus que c'est. Ce qui est très drôle, c'est que la promesse du film, au départ, c'est d'expliquer pourquoi les gens qui écrivent et pourquoi il y a des gens qui les publient. Mais alors, vraiment, à la fin, on ne sait pas du tout. Et non seulement on ne sait pas, mais tous les clichés, je trouve, qu'on avait en tête, à la fois un peu romantique, de « on se balade dans le 6e arrondissement pour refiler ses manuscrits », et le côté... éditeur, dieu dans sa chaise qui gère... je trouve qu'au contraire, on est plus confirmé dans tout ce qu'on peut avoir de clichés dans la tête sur le métier d'éditeur qu'infirmé, et on nous donne vraiment aucune matière sur ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce que fait POL au quotidien. Vraiment, j'en sors. Mmh. Et du coup, c'est extrêmement frustrant parce que la promesse est belle le début est plutôt beau, que formellement, il y a vraiment un essai à tout point de vue. Et au final, on sort de ce film tout à fait frustré le projet.
Mais
sur
le projet même. C'est ce que je disais moins bien que vous, mais je suis assez d'accord.
Attention. Non,
mais
c'est vrai. Phrase pour la aggraver quelque part. Parce que c'est Florent Georgescu qui dit ça, attention.
Je vois pas du tout pourquoi. Mais ce que ça devient, je le trouve très touchant. C'est quelque chose de plus personnel, de plus. Mais il est vrai qu'il y a une frustration. Par exemple, il y a la maison d'édition est filmée, les bureaux sont filmés, le personnel de la maison d'édition est filmé, mais ce sont des scènes muettes. En tout cas, eux, ils sont muets, puisque comme beaucoup de scènes dans le film, pour continuer de le décrire, beaucoup de scènes sont muettes avec par-dessus le récitatif, la voix off de l'auteur lui-même. Et là, par exemple, c'est vrai qu'il y a une frustration. C'est merveilleux d'entrer dans une maison d'édition. On n'a pas souvent l'occasion d'entrer comme ça, de voir. On voit donc une jeune fille qui est en train de faire quelque chose. Apparemment, elle colle des étiquettes. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Ça aurait été merveilleux. On voit Jean-Paul Hirsch, qui a un rôle très important dans cette maison, avec le monde des livres ouvert sur son bureau. On aimerait bien, par exemple, savoir ce qu'il était en train d'en penser.
En train de dire Raphaël Léré sous Florent Georgescu.
Voilà, c'est ça.
C'est ça la question.
C'est vrai qu'il y a une frustration. Mais le discours qui se tient par-dessus ces images frustrantes, a encore une fois une vraie beauté, une vraie sincérité, quelque chose qui dit au moins la vérité d'un homme à défaut de celle d'un métier. Tant pis pour le métier, on repassera.
Alors, la vérité d'un homme, c'est compliqué. Alors, bon, pour dire les choses comme elles sont, moi, il se trouve que mon père était auteur de Paul Tchaïkovski-Laurence depuis Flammarion, Hachette, et puis la maison d'édition, donc je le connais depuis que je suis, ou à peu près, et que j'étais, très irrité par ce film, d'abord par ses défauts formels qui sont pour moi rédhibitoires, la voix off monocorde avec un texte quand même, je trouve, laisse à désirer, les séquences de films muets, enfin, vraiment, c'est vraiment pour faire plaisir à des très très happy few, parce que qui connaît la tête d'Olivier Cadio, de Paul Fournel, de Jean-Paul Hirsch, et de Santiago Amigorena, peut-être avec sa grande crinière, on le reconnaît peut-être davantage, mais enfin, ce ne sont pas des vedettes absolues, donc il y a un côté, on est entre nous et on se fait plaisir, sauf que c'est un film qui sort en salle, donc on a quand même le devoir de dire ici aux gens ce qu'ils vont... payer en achetant ce ticket, ce qu'ils vont voir. Moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que bon, le métier d'éditeur, on comprend très vite que le titre est une fausse piste, puisque c'est un autoportrait de Paul Tchaïkovski-Laurence, puisque le film commence par la fin du film précédent, qui racontait cette enfance traumatique à Sablé-sur-Sarthe, commence à lui a donné le goût d'abord de devenir écrivain, ne l'étant pas au fond de lui-même, il devient éditeur et ça travaille vraiment la question de pourquoi il fait ce métier-là, pourquoi il continue à faire ce métier-là, de quelle façon il le fait, avec une forme d'autocritique qui me semble bien pratique, parce qu'il y a la critique dans le film, donc comme ça on peut pas dire que c'est un film complaisant. Enfin, je trouve ça assez peu subtil, alors que l'homme est quand même d'une subtilité totale. C'est effectivement un de nos grands éditeurs à n'en pas douter. Et du coup, je trouve que le film est vraiment pas du tout à niveau de ce qu'on aurait pu en attendre. Je pense qu'il y avait vraiment un très beau film à faire. Je passe sur Jocelyne de Bercher, qui est une magnifique comédienne, et Anthony Moreau, que je connais moins, mais qui c'est pas possible ce qu'il leur demande de faire. Enfin, je trouve ça, Jocelyne de Bercher dans la situation de la vie quotidienne, en train de se brosser les dents, de couper des poireaux, enfin, ou que sais-je.
Et de réciter, des lettres d'accompagnement.
Je n'ai vu à peu près que des problèmes dans ce film-là, d'où mon agacement, parce que moi j'avais plutôt de l'appétit de le découvrir, Lucie. Comment ?
Mais justement sur le côté entre soi, qui est est en fait chez POL, puisque justement une des caractéristiques de cette maison d'édition, c'est d'avoir rassemblé depuis 30 ans des écrivains qui restent. Et ça, c'est intéressant, par exemple. Alors, c'est intéressant du coup de les représenter. Sauf que comme c'est jamais explicité, bah du coup, on n'a rien sur ce projet-là. Donc, en dehors de quelques nous, en gros, des gens qui savent ce que c'est POL, qui lisent, qui comprennent la cohérence du projet même de l'édition et qui connaissent un peu les têtes des écrivains, en effet, c'est quand même problématique de présenter ça au grand public.
Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Par ailleurs, il est libre de faire absolument ce qu'il veut.
Non, bien sûr, on est libre.
Encore une fois, moi aussi, je suis frustré de ce que ça aurait pu être, mais il n'avait aucune raison de me faire plaisir. Enfin, il s'agissait pour lui de faire ce qu'il avait envie de faire, et il a bien raison, et basta. Mais par ailleurs, il y a quand même des éléments intéressants pour l'histoire de l'édition. Peut-être que c'est un film qu'il faudrait ressortir avec des notes de bas de page, si je puis dire.
Quand il parle de Kerol ou de Reverdy, c'est intéressant, sur les débuts, sur les grandes figures.
Il donne quelques informations. Par exemple, j'ai repéré la figure qui semble avoir été décisive pour lui d'un écrivain parfaitement oublié aujourd'hui qui s'appelle Jacques Cousseau. J'ai un peu regardé, parce que je dois dire que je ne le connaissais pas. Il dit que c'est, quand il était très jeune éditeur, un homme, il était ami avec lui, qui lui a ouvert son carnet d'adresses, ce qui l'a aidé à constituer ce qui sera la collection texte par laquelle il est devenu éditeur à part entière. Chez Flammarion, à l'époque, on est au début des années 70. Jacques Cousseau, voilà une piste, voilà une note de bas de page pour utiliser ce film à l'avenir, pour comprendre un peu mieux d'où vient cette carrière, celle de Paul Koski-Laurence, dans quoi ça s'inscrit, ce que ça représente dans l'histoire littéraire, toutes ces questions se posent, et il y a franchement, en dehors de tout cet aspect intime, quelques éléments extrêmement précis dans le film qu'il faudrait exploiter. Mais lui, il en a fait ce qu'il avait envie d'en faire.
Oui, Raphaël Léris.
Vous parliez aussi des clichés du 6e arrondissement. Bah justement, je trouve qu'il les évite. Est-ce que donc on voit un jeune homme qui veut déposer absolument son manuscrit aux anciennes adresses des maisons d'édition où a travaillé POL, et à chaque fois, il se confronte au fait que ça a fermé, que depuis c'est devenu une boutique de fringues, et globalement que le 6e est devenu un arrondissement non plus du tout intellectuel, mais un haut lieu du grand marché des vêtements. Et sauf qu'il le fait pas du tout sur le registre de la déploration. Il sait pas ce qu'il en fait. Je crois qu'il sait pas ce qu'il en pense. Et juste, il raconte l'histoire aussi d'un secteur qui change, y compris de ce point de vue-là. Et je trouve intéressante la manière dont il ne tient pas de discours dessus. Bon, alors après, il a la chance, lui, d'être toujours dans le 6e.
Oui, il est revenu dans le 6e. Au Saint-André-des-Arts.
Il est revenu dans le 6e. Mais ça, justement, je trouve qu'il réussit à éviter des écueils de clichés de ce point de vue-là.
Se pose-t-il la question? Moi, ce que je préfère dans le film, c'est la marionnette de Gisèle Vienne. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucun doute, contrairement peut-être à vous, Raphaël Léris. Moi, c'est vraiment, mais c'est parce que j'aime beaucoup Gisèle Vienne. Lucille Comeau, pour terminer. Mais
encore une fois, sur le côté un peu. En fait, je vois bien l'espèce de puzzle qu'il a voulu faire avec des choses très disparates d'un point de vue formel, mais il y a quelque chose du coup de très arbitraire dans les choix. Alors, vous parliez de Cousseau, par exemple, il y a un auteur qui est, lui, pour une raison qu'on ne comprend pas, interviewé de manière extrêmement classique et qui revient à longueur de temps, donc qui est Michel Manière, je crois. Ouais. Pourquoi lui? En quoi ce qu'il dit informe davantage que ce que pourraient dire d'autres auteurs? Je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de faire un documentaire extrêmement exhaustif, mais à l'inverse, le côté totalement arbitraire de ce qui est choisi, alors que le projet même énoncé au départ est une question.
Il a une
sur
fonction,
métier,
Michel Manière, dans le film.
Oui, et une fonction qui est révélatrice d'une certaine audace, malgré tout. De Paul.
Une certaine habileté, moi je dirais. Voyez.
J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a sans doute de ça. En même temps, est-ce que beaucoup d'éditeurs osent avouer leur cruauté? Cet auteur, c'est intéressant d'ailleurs que cet auteur ait accepté cette interview, a subi la cruauté.
Mais il professe sa vénération pour son éditeur aussi. Ça ne vous aura pas échappé. Qu'il a désigné écrivain.
C'est un fait dans sa vie. Mais c'est un fait, et qu'il raconte aussi, qu'ensuite, Paul a ouvert une trappe. Il raconte, pour éclairer nos auditeurs, qu'après avoir laissé un manuscrit, alors que Paul l'avait déjà publié, pas ce manuscrit-là, mais d'autres livres, Paul ne l'a jamais rappelé.
Après, il leur dit, je te rappelle dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, exactement. C'est d'une cruauté très grande. Bon, peut-être que c'est stratégiquement habile de montrer, de faire cet aveu de faiblesse, mais il n'empêche qu'il est réel, et que ça, pour le coup, ça dit quelque quelque chose de, du métier d'éditeur.
Bon, on finira sur ce mot, éditeur, puisque c'est le titre de ce nouveau film de Paul Ochakovsky, Laurent, sur les écrans depuis le 29 novembre. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute. Grégoire Desfiore nous rejoint pour nous rappeler la question d'hier et nous donner la réponse, Grégoire.
Quel célèbre roman anglais du 19e siècle se déroule dans les Landes du Yorkshire? Et la réponse était « Les Hauts de Hurlevent » d'Emily Brontë.
Et tout le monde a gagné.
Ce soir, des places de cinéma à gagner pour le film « Makala » d'Emmanuel Gras, qui est sorti lui hier dans les salles. La question:
quel animal constituait le personnage principal d'un documentaire du réalisateur?
Là, vous avez la réponse. Ah, là, petit malin, là. Petit malin.
Alors, le dinosaure, là, de tout à l'heure.
L'Alaska. Non, j'ai plus.
J'ai oublié son nom.
Allez, la réponse à cette vraie question, si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et plus simplement vous abonner au podcast de la dispute. Demain, 19h, dispute spéciale consacrée à qui ? À Johnny Hallyday. En direct et en public du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio, nous serons en compagnie de Sophie Rosemont, Christophe Comte, Hugo Cassavetti, Antoine Guillot et François Angelier pour parler des carrières de Johnny Hallyday dans la musique et au cinéma.